Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Autour de moi et fidèle au poste Grégoire Gambier et Lucien Valdès, nous n'aurons pas ce soir Philippe Christel pour son actualité européenne, mais Grégoire, vous allez le remplacer.
On dirait Ferroquier.
Avant de commencer cette émission, j'aimerais dédier cette émission à notre ami Hervé Couteau-Bégari, qui nous a quittés le 24 février dernier. Il a été pour notre génération un modèle à travers ses livres et bien sûr avec ses émissions sur Radio Courtoisie. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire une émission avec lui et pourtant j'avais depuis longtemps un projet sur l'opposition terre-mer dans la géopolitique française. Il aurait été bien sûr un invité d'exception. Je vous conseille en tout cas vivement l'excellent papier de Paul-Marie Couteau dans Valeurs Actuelles, lui rendant hommage. Et pour conclure, je dirais que contrairement à La Fontaine, je préfère le chêne au roseau, car lui, il ne plie pas. Et Hervé Couteau-Bégari faisait partie de la race des chênes. Les chroniques de La Vieille Europe vous saluent bien bas, monsieur Couteau-Bégari. Mais le combat des idées continue sur Radio Courtoisie. Et suite à notre émission avec Denis Lacorne sur l'Amérique et la religion du mois dernier, que je vous signale a fait un record d'audience sur Internet, nous allons continuer à décortiquer le mythe américain et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Philippe Imarijon pour un petit essai remarquable pour en finir avec la France-Amérique aux éditions Ellipse. Jean-Philippe Imarijon, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence sur Radio Courtoisie. Pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes, et vous me couperez si je me trompe, vous êtes avocat et docteur en droit, vous publiez régulièrement dans la revue de Défense Nationale, et vous êtes devenu un spécialiste de l'Amérique avec une trilogie. En 2006, vous sortiez « Pourquoi la vieille Amérique va perdre sa guerre contre le reste du monde ?» En 2007, « Sarko l'Américain ». En 2009, « L'imposture américain, splendeur et misère de l'oncle Sam ». Et vous décidez de récidiver pour notre plus grande joie avec « Pour en finir avec la France-Amérique ». Alors, avant de plonger dans votre essai, l'actualité récente a typiquement illustré votre livre symboliquement, bien sûr. C'est le succès dans les médias, qui en ont fait des tonnes, du film « The Artist ». Le rêve américain du petit acteur français arrivant au firmament d'Hollywood, est-ce révélateur du mythe ?
Oui, mais c'est surtout intéressant sur ce que ça nous dit de l'Amérique. C'est-à-dire qu'elle se reconnaît dans un film qui est plaisant. Mais je crois que le succès a étonné ses auteurs eux-mêmes. Ils faisaient un film hommage qui, je dénigre absolument pas le film, mais qui était quand même un coupé-collé de pas mal de scénarios, Star is Born, Chantons sous la pluie, et c'était un beau cadeau à l'Amérique. En fait, l'Amérique l'a pris véritablement comme une espèce de miroir dans lequel elle se regarde. C'est très intéressant du repliement de l'Amérique sur elle-même. Quand ça va pas bien, elle revient à ses fondamentaux. Alors c'est toujours un peu les mêmes fondamentaux. On est toujours dans l'imitation, I-M-Y-T-H, si je peux inventer un néologisme. Et elle a particulièrement apprécié ce film. D'abord, apparemment, il y a eu un gros travail de lobbying du distributeur américain, parce que ça lui parlait d'elle-même. Et puis, c'est parce que c'est les Français qui lui tendaient ce miroir. Et les Américains adorent que les Français lui disent qu'ils adorent l'Amérique. Bon. Et donc, ça nous dit beaucoup de choses sur l'Amérique. Je pense pas sur l'Amérique plus que sur la France ou ce que j'appelle la France-Amérique. Je pense pas qu'il faille faire de ce film une espèce de l'hirondelle qui fait le printemps, de la grande réconciliation. Ça n'a rien à voir. Il y a des considérations militaires, stratégiques, financières qui de toute façon sont beaucoup plus prégnantes qu'un seul film. Donc ce film est agréable, il est plaisant, il est très drôle. Enfin, on y retrouve des tas de références pour ceux justement qui adorent le cinéma américain. De notre point de vue, je le mettrais pas vraiment comme illustration de ce que je dis. En revanche, c'est très intéressant, encore une fois, sur cette espèce de retour de l'Amérique et des Américains à des fondamentaux qui sont toujours des choses finalement assez vieillottes, on en reparlera, assez ringardes et qui ne bougent pas.
Alors, vous avez appelé, effectivement, pour en finir avec la France-Amérique. Alors, tout le monde sait ce que c'est que la France-Afrique, mais la France-Amérique, c'est quoi exactement?
Alors, ça n'a rien à voir avec la France-Afrique,
sans doute un peu,
mais on parlera pas de valise de billets, de financement de campagne électorale, de rétrocommission ou de barils de pétrole qui s'égarent dans les comptabilités de certains partis politiques. La France-Amérique, c'est un peu... Je vais prendre des exemples, ensuite on développe, mais aujourd'hui, quand vous ouvrez les chaînes d'information, on vous parle du Super Tuesday, c'est-à-dire ce grand... ce vote où plusieurs États, environ une demi-douzaine, vont voter pour les primaires républicaines. Et ça intéresse énormément les Français, puisque quasiment la seule activité sur l'Amérique, sur les États-Unis, depuis le début de l'année, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment ça qui intéresse les Américains. Hier, au Congrès, a été votée une loi qui fait hurler la presse américaine et les blogs, qui quasiment interdit toute manifestation, c'est-à-dire qui qualifie de sédition, de félonie, avec un Y, c'est le terme exact dans la loi américaine, tout rassemblement qui ne serait pas autorisé ou qui serait dans un lieu où la police ne l'autoriserait pas ou qui ne se disperserait pas à première sommation des policiers. Certains blogs américains ont même dit que les États-Unis revenaient à la France de l'Ancien Régime et commence à employer des termes extrêmement violents. Le 31 décembre dernier, d'Hawaï, où il était en villégiature, le président des États-Unis a signé une loi qui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est la NDAA, National Defense Authorization Act, qui est une espèce de loi de programmation militaire qui essaye d'anticiper les restrictions budgétaires qu'il va y avoir assez dramatiques dans la défense américaine à partir du 1er octobre prochain, qui seront quasi automatiques, donc pour appeler ça une loi de progression militaire. Un certain nombre de cavaliers, comme on dit, se sont intégrés dans cette loi, dont un article qui littéralement valide toute la politique de Bush et surtout toutes les lois d'exception, et qui dit, pour la faire courte, que au titre de ses prérogatives de l'exécutif, de la suspension clause de la Constitution, du Patriot Act, etc., le président des États-Unis peut, de sa propre autorité, ordonner l'arrestation, l'interrogatoire, voire même la déportation ou la livraison dans un pays, déportation aussi au sens américain, livraison à un pays étranger, de toute personne. Et le Sénat ayant rejeté un amendement qui excluait de cela les citoyens américains, ça concerne également les citoyens américains. Bon, ça a fait également énormément de bruit aux États-Unis. Il y a déjà 7 États qui ont refusé d'enregistrer, si on peut toujours faire le parallèle, parce que c'est toujours très dur de trouver des équivalents des institutions américaines avec nos régimes parlementaires, et force est de constater qu'on est bien obligé d'aller chercher, finalement, puisque les institutions américaines ont été rédigées au milieu du 18e, un peu ce qui se passait chez nous, sans ouvrir la polémique, mais c'est l'ouvrir.
Il me semble que dans votre livre, vous en aviez... Enfin, vous évoquez en avoir parlé sur un plateau de télévision avec le professeur André Caspi.
Ouais. De la suspension clause.
Ça, c'est alors, est-ce que emblématique de finalement de la France-Amérique, comment a-t-il réagi?
Alors, on va rentrer un peu un débat de fond. La suspension clause est une disposition de la Constitution américaine qui n'a aucun équivalent dans nos constitutions démocratiques, enfin, qui sont toutes, faut-il le rappeler, surtout l'ensemble des pays démocrates, enfin, nous, démocraties dites libérales, sont au régime parlementaire, de style dualiste ou comme nous, orléaniste, gaulliste, si on veut, ou moniste d'assemblée. Il y a qu'un système qui a un autre régime, dit présidentiel, ce sont les États-Unis. Donc c'est vraiment une exception. Bon. Dans la Constitution américaine se trouve un certain nombre d'archaïsmes qui sont véritablement un héritage des institutions d'ancien régime. L'impeachment, c'est-à-dire il n'y a pas de responsabilité politique pour engager la responsabilité pénale. Il n'y a pas de primo-responsabilité, enfin de responsabilité primo-ministérielle. C'est ça le fameux blocage quand le Congrès et la Maison-Blanche ne sont pas d'accord. Beaucoup de gens s'extasiaient jusqu'à l'été dernier, où on a vu que ça avait été une véritable pétaudière sur cette histoire de relèvement de plafond de la dette. Il n'y a pas d'articulation entre l'exécutif et législatif comme il y a justement dans le régime parlementaire qui a été inventé sous la Restauration en France et puis en même temps en Grande-Bretagne. Donc il y a un certain nombre de choses qui n'ont eu plus cours dans nos régimes dits parlementaires. Le droit de veto, par exemple, c'est quelque chose qui a totalement disparu de tous nos régimes. Et parmi ces archaïsmes et ces choses absolument hallucinantes et dont personne ne parle, il y a un article qui s'appelle la suspension clause, dont il est très difficile de trouver d'ailleurs des commentaires chez les juristes américains, qui pourtant, lorsque vous lisez les décisions de justice, notamment toutes les décisions de justice sur Guantanamo, puisque contrairement à ce qu'on croit, le Guantanamo a été validé, entre guillemets, par les cours suprêmes, les districts de Columbia et la Cour suprême américaine, qui, pour reprendre un mot de Voltaire, a juste chipoté sur le degré de cuisson de l'hérétique, mais le principe de Guantanamo n'a jamais été remis en cause par les cours américaines, sur la base justement de cette suspension clause qui dit que les règles de l'habeas corpus, c'est-à-dire les libertés publiques, d'être jugé impartialement, enfin, qui existe, parce qu'on, l'habeas corpus en Grande-Bretagne, mais qui existe dans tous les régimes démocratiques, est intangible, virgule, sauf il peut être totalement suspendu en cas de sédition, menace d'invasion, etc., etc. Et c'est dans cette brèche qui n'a pas d'équivalent dans aucune de nos constitutions que se sont engouffrés dès la fin du XVIIIe, avec par exemple deux actes connus qui étaient des Patriot Act avant la lettre, qui étaient le Sedition et l'Alien Act dès 1798, toutes les mesures dites d'exception qui nous choquent énormément, toutes les mesures policières, la plus connue étant sur simple executive orders, la déportation, enfin véritablement des nippos américains, c'est-à-dire des citoyens américains d'origine japonaise entre 1942 et 1945. Ça n'a pas été des camps soviétiques ou allemands,
ils ont été tous enfermés
dans des conditions sans doute totalement acceptables, mais hors de tout contrôle judiciaire. Il n'y a jamais eu aucun contrôle judiciaire et les juges ne pouvaient pas intervenir. Bon. Et cet article de suspension clause, c'est très dur de trouver des textes là-dessus, et en France on ne connaît pas, c'est ça la France américaine, on ne veut pas connaître, donc on ne comprend pas Guantanamo, on ne comprend pas le Patriot Act, on ne comprend pas cet article voté, signé par Obama le 31 décembre dernier, qui reconstitue littéralement, pour faire court, les lettres de cachet, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on ne comprend pas ce qui a été voté par le Sénat dernièrement, on ne comprend pas la déclaration absolument terrifiante qui a fait beaucoup de bruit aussi avant-hier de l'attorney général, le ministre de la Justice américain, qui dit mais après tout on peut très bien faire assassiner des citoyens américains à l'étranger, c'est tout à fait légal dès lors que la sécurité nationale est en jeu et que le président des États-Unis le décide. Donc on ne comprend pas tout un tas de mesures qui sont totalement impensables dans nos régimes parlementaires, surtout en plus avec la Convention européenne qui valide un peu tout ça. On ne comprend pas non plus comment ils ont pu tolérer le waterboarding, enfin la torture. On ne comprend pas comment ils se vantent même des méthodes de pression dites sensorielles, vous savez, qui consistent à laisser la lumière allumée systématiquement dans les cellules, etc. On ne comprend pas ça parce qu'on refuse de voir que dès l'origine, dans les institutions américaines, il y a cette brèche énorme, cette faille, et à force de se dire c'est pareil, on est sur les mêmes principes, on a les mêmes valeurs, ce que j'appelle justement d'une manière courte la France-Amérique devient totalement aveugle. Oui, effectivement, le jour de l'inauguration, enfin, excusez l'anglicisme, de la prise de fonction d'Obama, j'étais sur le plateau avec le professeur André Caspi, contre lequel j'ai rien de particulier, et on parlait de Guantanamo, et alors c'était extraordinaire, Guantanamo allait fermer. J'ai un très mauvais souvenir d'ailleurs, cette émission chez Yves Calvi, c'était c'est dans l'air, ils m'ont jamais invité d'ailleurs, réinvité, mais et j'avais fait remarquer, un, que c'est pas parce qu'on fermait Guantanamo qu'il fallait passer ça par pertes et profits, c'est hallucinant, c'est comme si on avait rouvert l'île du diable et qu'on ferme l'île du diable, terminé, embrassons nous, on n'en parle plus, et puis qu'on n'avait pas écouté Obama, qu'Obama avait mis une restriction à ça, cette restriction on la retrouve dans son executive orders deux jours après, et que on ne pouvait comprendre cette restriction que si on avait lu la suspension clause, et j'ai dit, monsieur Caspi, je suis pas spécialiste, sous-entendu, parlez-nous de la suspension clause. Et là, j'ai eu un regard affolé, c'était pas question de parler de la suspension clause. Je constate que 3 ans et demi après, Guantanamo non seulement n'a pas fermé, mais que tout a été validé et qu'il va y avoir des tribunaux d'exception sur pièces secrètes qui vont requérir la peine de mort. Donc ça aussi, c'est cette espèce de surdité, on n'écoute pas. Il suffisait d'écouter Obama et de bien lire l'executive orders et les deux dernières lignes pour comprendre que Guantanamo ne fermerait pas.
Oui, parce
Et donc les Français, si Guantanamo va fermer, on fait des tas d'émissions et puis quand Guantanamo ferme, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'émission, ça n'a l'air d'intéresser personne.
Et vous l'écrivez, le dogme en la matière, est-ce que les États-Unis sont un état de droit irréprochable?
Oui.
Et vous reprenez un des... Vous l'écrivez d'ailleurs, un des agents d'influence de la France-Amérique, Laurent Cohen-Tanugi, ni l'exécutif ni le Congrès ne peuvent compromettre les droits que le système judiciaire américain ouvre à la société. L'État n'a pas davantage de pouvoir sur la société à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Il n'y a, ouais, pas que Caspi et Corinne Tanugi, il y a bien d'autres. Et vous verrez que le portrait que je fais de la France-Amérique dans le premier chapitre, on va dire, on y est tous plus ou moins. Je fais un peu trois catégories.
Oui, parce que...
Alors c'est vrai qu'il y a les fous d'Amérique, il y a les sectateurs, ce que j'appelle les adeptes du dieu cargo, qui eux, effectivement, ont la parole et c'est même pas que c'est une manipulation, c'est même pas une censure, c'est qu'apparemment il y a des neurones qui ne sont pas branchés pour comprendre véritablement, il y a un refus, il y a un blocage pour véritablement aller au fond et même discuter. Alors après, une fois qu'on a toute ma trilogie et cet essai, moi, à la limite peut-être les Américains ont raison. Bon, mais ce qui est sûr, c'est pas comme nous. C'est-à-dire, on n'a pas ouvert l'île du diable. On n'a pas le président français, il n'a pas le pouvoir de faire interner sans passer devant un juge. Bon, alors peut-être que les Américains ont raison dans un contexte, etc. Mais en tout cas, c'est pas nous, c'est pas nos principes, c'est pas nos régimes parlementaires, c'est pas la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pas ce pourquoi on s'est battu pendant un millénaire et qu'on a péniblement construit. Et voilà, ça n'a rien à voir. Bon, et malheureusement, la France depuis. Disons 2007, mais ça a commencé un peu en 2003-2004, est très sensible à des mesures sécuritaires qui n'ont aucun sens, parce qu'elles sont d'une totale inutilité. De toute façon, on sait gérer un certain nombre de phénomènes sans adopter des lois d'exception. Et puis ça passe comme ça. Enfin, pour en parler, moi je vois en tant qu'avocat dans le domaine de la justice... il y a eu beaucoup de casse, mine de rien. Hein. On a insufflé dans le droit français des mesures qui, de toute façon, ne collent pas avec le code Napoléon. Enfin, c'est un moment, le système va être bloqué. On pourra y revenir.
Oui, parce que ce qui est fascinant en vous lisant, c'est qu'en France, que ce soit les opposants à l'Amérique, et il y en a pas mal, ou les idéolates de l'Amérique ont souvent une ignorance totale du pays, de l'intérieur. Alors, soit on est dans les clichés du livre de BHL qui a envie de rejouer Tocqueville, mais en fait, on a une ignorance totale du pays et de sa façon de vivre.
Oui, et puis aussi, c'est frappant depuis 2001, une espèce de surdimensionnement de la... Enfin, c'est une ignorance, c'est un surdimensionnement aussi, par exemple, on va aborder les choses point par point, surdimensionnement de la puissance américaine. Ça, c'est très impressionnant, c'est ce qui est le plus frappant. Alors maintenant, les gens ont compris qu'un pays qui est endetté, un pays qui n'a plus de navette, un pays qui a des difficultés, qui se prend une raclée en Afghanistan, qui a des difficultés à maintenir son niveau diplomatique, enfin ses services, de certaines villes comme Détroit, qui sont devenues des friches industrielles, les ponts de New York reviennent, ils avaient été arrangés, ça revient... À l'état de rouille. Enfin, vous avez des autoroutes américaines, il y a des nids de poules, on ferme des casernes de pompiers, il y a des... Enfin bon, il y a dans certains états, on s'en aperçoit pas parce que c'est un système fédéral, donc chaque état, chaque ville, c'est un peu plus endetté que les autres, mais il y en a qui sont véritablement, en ce moment, enfin, tout, on a vu des reportages sur Détroit à la télé, on revient à des zones urbaines avec 20-30% de la population uniquement sur dans des quartiers entiers, donc il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. Et c'est cette espèce de crédit qu'on fait à la puissance américaine et qui est inentamé. C'est-à-dire, on a beau connaître les chiffres, on a beau savoir, on leur fait toujours, et c'est leur grande réussite finalement, ce sont de brillants propagandistes, ils ont brillamment réussi là-dessus, on leur fait crédit, il n'y a pas d'autre mot, d'une puissance qu'ils n'ont pas et dont eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai été frappé au mois de juillet dernier, alors qu'on était en pleine crise de la dette, enfin le Congrès était totalement bloqué, ils ont fait atterrir leur dernière navette spatiale. Et vous avez vu sur toutes les radios et les télés la même phrase quasiment où, en toute bonne foi, nos journalistes vous disaient que désormais, la première puissance spatiale n'aurait plus de lanceurs, ne pourrait plus lancer de satellites, sans s'apercevoir qu'ils étaient dans une aporite totale. On ne peut pas dire que la première puissance spatiale n'a plus aucun lanceur et va être obligée d'avoir recours aux lanceurs européens ou russes du Baïkonour bis de Kourou, que 80% des satellites sera lancés de Kourou. et continuer à dire que l'Amérique est la première puissance spatiale. Mais tout le monde a dit ça de bonne foi, sans se rendre compte que voilà. Oui, et puis la première, puis là. Et au même moment, on nous disait que demain matin, peut-être, la première puissance économique et financière et monétaire du monde serait en liquidation. Et personne ne relevait cette énormité
de la dette américaine. C'est hallucinant.
Oui, parce qu'il faut lire les blogs aussi. C'est les 15 000 milliards. Tout ça, c'est un affichage, apparemment. Mais là, il faut vraiment. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand enfin, moi, je fais un truc très très simple, c'est que ma page d'ouverture d'un grand, de Google, pour pas le nommer, me permet, vous savez, de mettre en page d'ouverture, on a les liens. Donc, je me suis mis une quinzaine de liens avec les médias américains. Vous avez une sélection de 3 articles. C'est présélectionné, c'est pré-mâché, mais déjà, je m'aperçois que je lis. Enfin, je suis pas le seul, mais que on est quelques centaines, sans doute, à lire la presse américaine. Et là, on apprend des choses absolument terrifiantes. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes, depuis l'été dernier, ont bien compris qu'ils sont en bout de course, qu'il y a un problème et qu'ils sont plus capables. Enfin, ils passeront pas la rampe. Enfin, ils ont une fin de siècle, de 20e siècle, extrêmement difficile. J'ai l'impression qu'en France, personne ne lit ça. Personne ne lit ça. Bon.
Oui, donc, il y a Emmanuel Todd qui l'a.
Non, mais je l'ai dit que
sur du long terme,
on
a. Fait,
oui. Alors, Emmanuel Todd, Emmanuel Todd a une approche. Alors, je ne vais pas me comparer à Emmanuel Todd qui est qui a une compétence infiniment supérieure à la mienne. Lui, il voit sur il a une vision très déterministe des choses, c'est-à-dire effectivement les fondamentaux sont tous délabrés, sont tous défaillants aux États-Unis, donc immanquablement l'Amérique très rapidement ne pourra pas tenir son rang. Moi, j'aurais plutôt une vision, je dirais, darwiniste, c'est-à-dire on peut pas, même quand les fondamentaux d'une nation sont défaillants, d'une civilisation, elle peut continuer, perdurer pendant un siècle, 2 siècles, etc. À un moment, il y a un accident. C'est un peu la problématique que Edward Gibbon avait sur la chute de l'Empire romain au XVIIIe siècle. C'est pas tout d'avoir des fondamentaux et de dire après coup, ah bah ça devait se passer. À un moment, il y a un accident que la civilisation ou la nation n'est pas capable de surmonter. Ça peut être une bêtise. Hein. Ça peut être, on a tous lu La Guerre des Mondes. Les Martiens sont très bien et puis ils attrapent la rougeole. Enfin, ça peut, c'est Darwin, hein, ça peut être une pétouille, comme on dit. Bon. Et je pense que l'entrée dans Bagdad a été, enfin, le 11 septembre et puis ensuite la bêtise qu'ils ont fait en entrant dans Bagdad. Et je l'avais écrit, c'est pour ça que je le répète, j'en suis très fier. J'avais écrit dans Défense nationale une semaine avant en disant là, ils vont faire la bêtise de leur histoire. Il ne faut pas rentrer. C'est une ânerie monumentale. Ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils ont fait ce jour-là une ânerie monumentale.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous recevons Jean-Philippe Imarijon pour son livre « Pour en finir avec la France-Amérique ». Alors, justement, sur le 11 septembre, c'est intéressant parce que vous dites que 10 ans après que les médias américains ont repassé en boucle les images au moment de l'anniversaire, sans aucun recul sur l'événement, sur les incohérences des différents rapports, comment expliquez-vous cette attitude ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent pas en compte l'histoire.
Alors, c'est très surprenant parce qu'au bout de 3-4 ans, on avait l'impression, d'ailleurs, il y avait un article de, comment il s'appelle, Thomas Friedman, qui pourtant n'est pas un tendre, qui en 2005-2006 avait dit un article et avait dit je voudrais que le 11 septembre soit le lendemain du 10. Sous-entendu, je voudrais que ça soit une date bon, importante, mais qu'on n'en fasse pas. Bon. Et les Américains, en 2005-2006-2007, on a l'impression qu'ils rentraient dans le faire son deuil, comme on dit, un mot que je ne comprends pas et qui est ridicule. La résilience. Et puis, brusquement, pour ce 10e anniversaire, ils sont revenus dans une espèce de complaisance, d'auto-mortification, enfin, et qui est totalement idiote. Enfin, ce qui est totalement, et c'est un peu, alors, votre première question sur The Artist, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils se raccrochent à quelque chose. Là, ils sont en train de se raccrocher à des mythes, à des images, à des symboles. L'histoire américaine, c'est très panthéonistique. Enfin, j'ai trouvé un jour dans Grac une phrase justement sur l'histoire romaine. Enfin, il disait que l'Empire romain à un moment n'avait pas suggéré son histoire parce qu'ils avaient panthéonisé systématiquement. Et les Américains panthéonisent beaucoup et beaucoup trop. C'est-à-dire qu'ils gèlent les choses. Il y a des points comme ça, des points nodaux. Et le 11 septembre, en éteint, c'est important, mais ils étaient en train de l'évacuer et de dire on passe à autre chose. Et en fait, on s'est aperçu pour le 10e anniversaire qu'ils ne veulent pas passer à autre chose. Alors ça peut s'expliquer un peu comme des artistes. Hein. C'est-à-dire, on revient comme vraiment, entre-temps, il y a eu la défaite, enfin, la, on peut appeler une défaite en Irak, en Afghanistan, ils sont mis en échec de manière assez pitoyable, et nous avec d'ailleurs. Donc ils se replient sur les grands mythes. Alors on vient, il y a un excellent bouquin de Corinne Lane, qui est une des rares correspondantes, qui est la correspondante du Monde, qui a un excellent blog, qui est une des rares, si je peux dire, à bien comprendre, enfin, comment il fonctionne. C'est aux sources de la République américaine, enfin, retour au père fondateur. Et c'est vrai. Et Obama, dans son discours à Chicago, lorsqu'il est arrivé le soir de l'élection, quasiment marchant sur les eaux du lac, on a l'impression qu'il arrivait du lac Erie. Non, mais c'était pas innocent, je pense. Mais est revenu justement les pères fondateurs, etc., etc. Donc les Américains sont véritablement en train de se replier sur des images, sur une histoire qui est quand même fortement réécrite. Et à l'occasion du 10e anniversaire du 11 septembre, on a eu droit vraiment à une régression totale et à des choses hallucinantes. Enfin, on avait des documentaires. Alors, nos médias les ont passés bruts de décoffrage. Il n'y a pas eu une seule objection. Quand vous entendez dans ces documentaires venant des États-Unis des fonctionnaires qui préfèrent passer pour pour des imbéciles que des impuissants, on peut pas savoir, mais qui vous disent mais le 11 septembre 2001, on pouvait pas savoir, avant il y avait eu, alors vous disent le folklore, les pirates de l'air. Jusqu'à maintenant, c'était des pirates de l'air. Bon. On ne pouvait pas savoir, c'est le mode opératoire, etc., etc. Et aucun Français ne réagit. Il ne faut quand même pas oublier que nous, le mode opératoire, on le connaît depuis une conférence de presse de Charles Pasqua au lendemain de la Noël 94.
Oui, oui.
On sait depuis la Noël 94 que l'Airbus du GIA devait normalement faire le plein d'essence. Ça nous a été dit, ça a été confirmé après. Il y a eu des émissions. Balladur, qui était Premier ministre, a dit qu'il avait personnellement demandé aux Algériens de ne pas remplir la soute sur le tarmac d'Alger, parce qu'on le savait dès le départ et tout. Donc, on sait que le mode opératoire, je veux pas dire que les Américains, c'est un incident, mais qu'on vienne pas nous dire que le monde a basculé.
Il y avait eu un article aujourd'hui.
Alors voilà, du coup, moi, j'ai trouvé un article de Time, édition domestique, c'est-à-dire. Vous savez, il y a deux éditions. Ouais. Faut toujours faire très attention à Time et Newsweek. Parce qu'on s'imagine que les Américains lisent ce qu'on lit, mais en fait, ils lisent pas. En fait, dès janvier 95, il y a un article dans Time, édition domestique, qui explique l'opération et qui d'ailleurs tresse des louanges au GIGN et aux Français. Et qui commence, parce qu'il faut, vous savez, les articles américains, faut faire un pitch, faire un pré-générique. Et le premier paragraphe, c'est la description d'un quartier de Paris entier, soit à la Défense, en flammes, avec un avion qui s'est écrasé, etc. Donc, les Américains savent, comme tout le monde depuis Noël 94, que il y a un nouveau mode opératoire qui va arriver. Bon, alors qu'on l'ait oublié à l'époque, on n'ait pas voulu y penser et tout, mais que 10 ans après, ils viennent nous servir une soupe du style on ne savait pas, on ne pouvait pas prévoir, on a été pris par surprise, personne ne nous avait prévenu et c'était totalement nouveau. Quand vous entendez ça, vous êtes un peu surpris, parce que ou bien ils n'ont effectivement rien compris, ou bien alors ils le font exprès. Il y a une véritable réécriture, une volonté véritablement de jouer les martyrs, de jouer les victimes, ce qu'ils ont été, hein, mais de surrajouter, de surdimensionner cet événement. Et ça sert à rien, une nation qui se plante sur des événements comme ça. Nous, on sait, on a vécu dans l'histoire suffisamment d'événements dramatique, on a suffisamment de mal à évacuer ou à intégrer un certain nombre de défaites, dont le fait de voir des panzers sur les Champs-Élysées en 40. Quand on voit que les Américains, pour un événement dramatique, mais qui est quand même infiniment moins grave que d'avoir
d'être envahi
et d'avoir la croix gammée sur la tour Eiffel, c'est quand même inquiétant. On peut se demander, beaucoup d'historiens américains se demandent, et Denis de Rougemont, dès les années 40, disait, ils sont bien, ils font la guerre, ils vont la gagner, mais il avait déjà, puisqu'il était suisse, mais il a vécu toute la guerre, la seconde guerre aux États-Unis, dans le bouquin, deux bouquins remarquables que je conseille, Journal des deux mondes et Vivre en Amérique, qu'il a écrit quand il est rentré, au milieu des années 40, 45 et 48, je crois. Il dit, mais s'il leur était arrivé ce qui est arrivé aux Français, le pays se serait effondré. Donc lui-même avait bien vu cette fragilité psychologique et qui ça a été révélé le soir du 11 septembre. C'est-à-dire qu'on a découvert, pour peu qu'on les connaissait et qu'on comprenait ce qu'ils disaient, on a découvert le soir du 11 septembre, moi j'ai revu une fragilité énorme, c'est-à-dire une panique énorme, une incompréhension de ce qui se passe. et pour éviter de s'effondrer, alors on met la puissance en avant, on pousse absolument, on essaye de forcer l'histoire, et ça a failli marcher, et en fait ça n'a pas marché. Enfin, le problème de l'Amérique aujourd'hui, c'est qu'elle est quand même en bout de course, et elle a essayé de s'imposer au monde au soir du 11 septembre. Elle a échoué et maintenant elle est obligée de se replier. Et très sincèrement, le soir du 11 septembre, elle ne pouvait pas faire autrement. Bush, c'est quand même pas une lumière, mais n'importe qui, quel président américain aurait fait pareil. Et aujourd'hui, n'importe quel président américain est obligé de replier les valises et de rentrer à la maison, enfin militairement, financièrement et autres. Ils n'ont pas vraiment le choix, à mon sens. Et ça, il faut vraiment, nous, en tant qu'Européens et Français, il faut vraiment l'anticiper. Parce qu'on ne peut pas attendre que l'Amérique nous claque la porte au nez. Et elle va le faire, c'est évident. Et elle va le faire sans doute plus rapidement qu'on s'imagine.
Alors, dans le même état d'esprit, vous mettez souvent le doigt sur des situations qui sont parfois cocasses, mais qui sont symboliques, mais très révélatrices de l'aveuglement des élites françaises. Par exemple, le fait que l'Amérique a su regarder et critiquer son histoire. On en parlait tout à l'heure. Et vous donnez cet exemple qui, effectivement, est incroyable. Souvent, on compare la guerre du Vietnam à la guerre d'Algérie. Et à travers leur cinéma, les Américains ont su voir leurs erreurs, vu le nombre de films sur le sujet, mais pas la France. Sauf que les films sur le Vietnam, c'est vrai que quand on en fait l'analyse, montre que, en règle générale, que des pauvres GI qui sont souvent victimes, qui ont un peu pété les plombs parce que la jungle et les Vietnamiens sont méchants. Il n'y a pas une image des Vietnamiens, ce qu'ils ont subi à travers les bombardements. Il n'y a aucune critique. Alors que en Europe ou en France, on dit quel courage les Américains prennent leur histoire à bras de corps.
Moi, ça m'a toujours énervé, ça, le parallèle entre le cinéma américain sur le Vietnam et la supposée absence du cinéma français sur l'Algérie. Je fais un peu, j'imagine qu'un film sur l'Algérie qui serait comme celui du Vietnam, c'est-à-dire un film où, en fait, effectivement, on a des petits gars qu'on tire de leur ville de province. J'ai mis Limoges et Pontarlier, je crois, comme ça. Ça, c'est ce qui m'est venu, mais c'est pas, ça pourrait être n'importe. Et qui se retrouvent en milieu hostile. C'est des films, c'est Platoon de Stone, c'est Full Metal Jacket et autres, ouais. et qui sont dans une population, en fait, qui ne comprennent pas, parce que quand vous voyez les films Full Metal Jacket, le Vietnamien, il n'existe pas, et la Vietnamienne n'existe pas. Il n'y en a qu'une, c'est la Viet Minh qui, en fait, se fait sert de sniper, et puis une demi-heure avant, c'est la prostituée, il y a une tournante. Donc quand on regarde ça, c'est imaginer un film sur l'Algérie où les deux seuls personnages d'Algériennes, ça serait la petite pute qui subit une tournante et puis celle qui va poser les bombes au truc du casino, oui, peut-être, mais je veux dire, on dirait non, on peut pas passer ça. Bon, et pourtant, c'est ce qui nous passe. Bon, et faire des films sur la guerre d'Algérie, on les fait et on vide les fonds de tiroir. Quelquefois, ça nous fait pas plaisir, mais c'est un des éléments. On va le voir, dimanche en 8, maintenant, puisqu'on approche du 50e anniversaire des accords d'Évian. Et c'est un signe aussi. Enfin, c'est un élément aussi en disant tout. Non seulement on assume notre histoire, mais on aide. Enfin, à une réconciliation, mais enfin, on montre véritablement aux autres, aux Turcs, par exemple, sur l'Arménie. Je veux dire, on peut pas faire la leçon aux autres si nous-mêmes on n'assume pas tout. Bon. Les films américains sur la guerre du Vietnam, pour les universitaires américains et les historiens américains, c'est vrai que c'est le folklore un peu à la mâche. Enfin, ça se passe en Corée, mâche, mais bon. Mais c'est surtout aussi des opérations terrifiantes. C'est l'opération Phoenix, qui est une opération de d'éradication du Viet Minh au nord de Saigon, au débouché de la piste Ho Chi Minh. C'est-à-dire, on prend des villages, on fait de la décimation de villages, enfin, la décimation au sens strict. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dixième, on le rase et on massacre.
Oui, il y avait ces plans que McNamara voulait détruire, même la jungle.
Il y a l'épandage de et ça fait des dizaines de milliers de victimes. Il y a l'épandage de la piste Chimine à l'agent orange, bon, on en pense qu'on veut stratégiquement, mais 60 ans après, ça c'est, il y a des malformités, il y a une vraie guerre aérienne, on allait bombarder Hanoï à coup de B-52 et tout. Je crois que le chiffre est toujours cité, ils ont déversé sur le Vietnam 2 mégatonnes, l'équivalent de 2 mégatonnes. Ouais. C'est autant que tout ce qu'ils ont déversé sur l'Allemagne et le Japon pendant toute la guerre. Bon, alors, c'est ça la guerre du Vietnam. Ça, c'est totalement absent des films américains. Et pourtant, il suffirait de, je sais pas, au lieu de prendre un personnage de G.I., ils disent qu'ils font tellement de films là-dessus. Ils pourraient, je sais pas, faire un scénario sur les états d'âme, ou même pas les états d'âme, c'est pas grave. Mais un personnage de pilote de l'Enterprise qui décolle pour bombarder le port de Haïfong, ou le pilote de B-52 qui bombarde, qui essaie de détruire le pont Paul Doumer et tout. Ça fait une idée de scénario. Non, ça n'existe pas. Donc imaginez qu'on fasse des guerres, des films sur la guerre d'Algérie, comme eux, ils font des films sur la guerre du Vietnam. Ça passerait pas.
Ouais.
Ça passerait pas, c'est pas. Mais c'est pas pour faire de l'auto-flagellation. C'est que si vous ne dites pas toutes les choses, c'est moi j'estime, puisqu'on fait la leçon à beaucoup, on a fait la leçon aux Turcs, que c'est justement on est un peuple majeur et mûr en assumant même les pires saloperies qu'on a fait, et que ça sert à rien de les mettre dans un fond de tiroir, de les planquer et puis de pas en parler. Et c'est un des éléments. Moi, je pense, on va, enfin, ça va. En pleine campagne électorale, ça va être, je pense, assez dur, mais de communiquer pour nos politiques là-dessus. Mais je sais, pour avoir des contacts, que les Algériens sont extrêmement attentifs à la manière dont les historiens français, les documentaires, vont passer des bouquins. Il y en a déjà beaucoup, on en parle peu, mais il y a énormément, il n'y a qu'à rentrer dans la librairie, sur ce 50e anniversaire des accords d'Évian. Et qu'en fait, la vision que nos historiens vont avoir, c'est celle-là que les Algériens vont écouter. Parce que le catéchisme des héritiers des généraux du FLN, ils n'y croient plus, ils n'écoutent pas. Donc, mais c'est parce qu'on va leur expliquer tout, c'est parce qu'on va nous-mêmes, on va dire sur nous des choses qui ne sont pas très jolies, qu'ils vont pouvoir écouter des choses eux-mêmes qui ne sont pas très très belles sur les villages rasés par le FLN, les émasculations de nos prisonniers, et puis bien sûr toute l'affaire des Harkis. Mais ils n'écouteront pas, ils n'écouteraient pas si tous nos historiens n'avaient pas avant, c'est vrai, raclé nos fonds de tiroir ou nos placards qui ne sont pas très très jolis. Les Américains, eux, ils refusent de faire ça avec leur propre histoire. Et du coup, ils ont un problème avec les autres nations. Vous pouvez pas, un Américain ou un Français qui est au Vietnam, je pense que l'Américain a été hésite entre oublions tout ça, c'est très moche, c'est très vilain, et puis par moment la grande flagellation du puritain qui dit je suis un salaud, tu vois, qui dit d'autant plus facilement qu'en Afghanistan il recommence, il y a qu'à lire les télégrammes de WikiLeaks pour comprendre qu'ils font la même chose qu'au Vietnam. Bon. Les relations avec d'un Français et d'un Vietnamien, je pense, seront beaucoup plus ouverte. Je pourrais vous raconter ce que m'avait raconté un ancien chef d'état-major particulier de Mitterrand, le jour où Mitterrand était allé, ce général et français d'armée avait pris à sa table le général Diap, et il a un souvenir absolument extraordinaire, et vraiment 4 heures de le général d'armée française et le vainqueur de l'armée française. Mais comment, quand on se dit tout, ensuite on dit le passé. Bon, le problème des Américains, c'est qu'ils ne le disent pas, leur propre passé, ils l'occultent. Sauf pour faire des grands mouvements de repentance. On a été dégueulasse de massacrer 7 millions d'Indiens. Ça ne se fait pas, mais 50 ans après, ils recommencent.
Alors, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie et nous recevons Jean-Philippe et Marie-Jean pour son essai Pour en finir avec la France-Amérique. Alors, vous aviez écrit un essai sur Sarkozy l'Américain. Après 5 ans, et donc ce mandat est en train de se terminer, quel est le bilan, en tirez-vous, entre l'Amérique et Sarkozy? Je vous sens. C'est que les blancs à la radio, c'est pas. C'est lui qui est revenu un peu en arrière, a été déçu. On a bien senti que d'un côté de la rive de l'Atlantique, ça ne marchait pas.
Non, mais alors, dans Sarko l'Américain, j'avais écrit, c'était sans me vanter, un des premiers essais critique. Il est sorti le jour de sa première visite, son discours au Congrès. C'était pas. J'avais le mémoire le 7 novembre ou le 8 novembre 2007. Donc vous vous souvenez de la presse extatique, qu'elle soit droite ou de gauche. Enfin, c'était assez désagréable, assez méchant. Je ne veux pas être parano, mais 3 semaines après, j'ai reçu par recommandé de l'aide de mes 2 centres des impôts. Je ne veux pas être. Bon, qui était assez désagréable, mais je ne suis pas parano. J'ai été contrôlé une fois dans ma vie, mais surtout les 2 centres. Enfin, comme je suis avocat, j'ai le centre professionnel. Bah oui. À 48 heures d'intervalle, les 2 lettres recommandées sont arrivées. Je n'ai pas très bien compris, mais bon. Mais j'ai aucune considération, sinon pour des gens qui aboient et qui ne mentent pas. Et moi, c'était intéressant ce que nous disait le personnage de l'Amérique et ce que l'Amérique disait de lui. C'est-à-dire, il avait une vision qui finalement me plaisait bien, mais qui correspond un peu à ce que Tocqueville dit par moment. C'est-à-dire, Tocqueville, dans une lettre à son ami Louis de Kergolay, parce qu'il faut lire Démocratie, il faut lire deux lettres extraordinaires à Louis de Kergolay, qu'il envoie en 1831, et il faut lire ses carnets de voyage où il jette des idées. Et il y a des choses extrêmement dures et violentes de Tocqueville contre l'Amérique, que la France-Amérique, précisément, ne veut pas lire et ne veut pas connaître. Il écrit à Kergolay, l'Amérique, c'est deux piliers, ordre et autorité. Et l'Amérique pour Sarko, c'est ça, c'est ordre et autorité. Alors pour faire de la psychanalyse à deux balles, disons que c'est le père de substitution. Mais c'est vrai, moi ça m'avait paru, je ne crois pas à la psychanalyse, mais pour certaines personnes, pas très complexes, pour lui, c'est le père de substitution. Il se comportait avec l'Amérique, et pas seulement celle de Bush, avec l'Amérique comme avec le père. Alors Obama est arrivé, c'est un peu le grand frère. Et là, effectivement, ça a changé. C'est-à-dire, on peut tuer le père, mais là, il n'était pas dans le meurtre du père. Il n'est plus dans le meurtre du père. Il est prouvé au grand frère qu'il peut faire aussi bien que lui. Et là, on a eu effectivement à ce moment-là un certain nombre de d'actions. Qui étaient a priori intéressantes, mais qui n'ont pas abouti sur des résultats très probants. La guerre en Libye, c'est pas non plus, avec le recul, on va s'apercevoir que ça n'a pas été, non pas qu'il fallait pas dégommer le fou du désert, l'après-guerre est pas gérée. Et là, c'était de manière visible, je vais montrer aux Américains que moi aussi j'ai un porte-avions, moi aussi j'ai des AWACS, moi aussi j'ai des drones, moi aussi je peux faire ma mini-guerre d'Irak. C'est-à-dire, je vais montrer au grand frère que moi aussi je suis aussi fortif que lui. Voilà.
Tout ça coordonné avec
la chaîne. Et à mon avis, Sarko, ça s'arrête un peu là. Donc la politique vis-à-vis des États-Unis, elle n'est pas très très suivie. Maintenant, il y a deux fautes majeures, franchement, c'est de renvoyer en violation de sa propre promesse à trois jours du second tour, émission d'Arlette Chabot, je crois que j'étais un des premiers à le citer, maintenant ça a buzzé, où il dit que, c'est-à-dire que non seulement il dit qu'il ne renverra pas le COS, parce qu'il ne faut pas oublier que Chirac et Villepin et Douce-Blagy à l'époque étaient aux affaires étrangères, on avait retiré y compris les 200 commandos du COS qui en avaient marre de servir, de faire valoir aux Américains, qui dit non seulement qu'il ne renverra pas l'armée française, mais qui motive ça à la fin de son intervention en disant, de toute façon, vous savez, il dit quasiment, on est dans une guerre de type colonial, donc elle est perdue d'avance, c'est pas la peine d'envoyer, jamais une armée étrangère n'a réussi quoi que ce soit. Bon. Donc ce renvoi contre l'avis de nos généraux, puisque le canard enchaîné avait aussi relevé qu'il avait décommandé une réunion d'état-major parce qu'il ne voulait pas écouter ce que lui disaient les chefs d'état-major, dont le SEMA, le grand chef, le patron des armées françaises, qui était à l'époque, je ne sais plus, Gorgelin ou Benteja, avait dit trois semaines avant que c'était un merdier où on n'avait rien à faire. Donc ce renvoi de l'armée française en Afghanistan est totalement incompréhensible et totalement inutile. Enfin, on est en train vraiment de perdre, malheureusement, des soldats pour une guerre qui ne sert à rien. Et puis la deuxième faute majeure, c'est la réintégration dans le commandement militaire intégré sans avoir négocié. On nous a fait croire qu'on avait négocié, on n'a rien négocié. Et j'ai cru comprendre, par mes contacts que j'ai, que même les quelques strapontins que nous ont laissés les Américains, on les occupe même pas. C'est parce que ça n'intéresse personne, parce que c'est un marché de dupes et ça n'a aucun intérêt. Bon. Et quand je vois que le candidat de la SFIO, pour être très méchant, gardera ça de Nicolas Sarkozy, je me dis qu'à par moment, il y a une incompréhension. Enfin, et non seulement ça nous bloque, mais ça gèle complètement toute la pensée stratégique française depuis 18 mois. Parce qu'on a sous-estimé la pression idéologique énorme que font les Américains lorsqu'ils sont quelque part ou dans une structure. Ça, c'est quelque chose qu'on a totalement sous-estimé. Sont de vrais propagandistes, vrais idéologues, ils savent faire, c'est une machine énorme. Ils ont des think tanks qui sont financés, enfin je veux dire, on ne peut pas être mis en compétition quand on entre dans une structure comme l'OTAN et dans une pensée stratégique qui serait celle à ce moment-là de l'Atlantique Nord, on ne peut pas être la mouche du coche, on ne peut pas être de l'intérieur. Et l'avoir pensé, l'avoir cru en disant la France va pouvoir se faire entendre mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est une méconnaissance de la puissance américaine, de la bureaucratie américaine et de tout un appareil idéologique énorme. Enfin, je veux dire, si on listait les organismes américains, que ce soit les think tanks, les agences gouvernementales, on n'en finirait pas. C'est des centaines de milliers de fonctionnaires qui passent leur temps à écrire, à pondre des rapports, des papers, des reviews. On ne peut pas lutter contre ça de l'intérieur. On est littéralement phagocyté.
Surtout que le temps, à ce niveau-là, vous le dites, on est arrivé vraiment au dernier moment, au mauvais moment. C'est plus maintenant pour les Américains à bouler le temps qu'autre chose. Ils ne savent pas trop quoi en faire.
C'est devenu, mais ça c'est un peu récent, mais on va voir au sommet de Chicago. Ça, c'est quelque chose que nos candidats ne préparent pas. C'est qu'on a un sommet de l'OTAN à Chicago où les Américains ont déjà prévenu qu'ils allaient dire des choses extrêmement dures. Ils vont essayer de nous refourguer une défense antimissile dont on n'a rien à faire en Europe. Enfin, c'est pas une probabilité que dans 30 ans on reçoive un missile intercontinental à tête thermonucléaire perse et très exactement égal à zéro. Enfin, c'est pas, les Iraniens se dotent pas de la bombe pour attaquer, ils se dotent de la bombe pour être sanctuarisés. Donc, mais ils vont réussir à nous vendre cette défense antimissile, donc à la faire cofinancer par les Européens. Ils ont déjà fait le coup avec leur chasseur, le JSF, le F-35. Qui est un fer à repasser volant. Les Norvégiens ont investi, les Anglais, les Hollandais à fond perdu, même les Israéliens attendent toujours leur retour sur investissement. Et puis sur la présence américaine en Europe, ils ont prévenu au sommet de l'OTAN qu'il allait y avoir un rapatriement d'un certain nombre de forces. Ils ont en ce moment 80 000 soldats, ils ont encore quelques dizaines de têtes nucléaires qui doivent traîner à droite à gauche, ils vont les rapatrier. En soi, c'est pas une catastrophe pour nous.
Parce non, que non.
La probabilité qu'on ait les 150 divisions motorisées soviétiques qui nous tombent dessus en 48 heures est devenue assez faible. Mais simplement, le problème, c'est que on a, avec un budget France-Britannique, on doit être à 2,1 du PIB. Tous les autres pays sont à 1,5. Si les Américains arrêtent de mettre de l'essence dans les cuves, pour dire les choses, on fait comment? Nous, on arrive à peu près à s'en sortir avec les Britanniques, mais personne d'autre en Europe n'arrive à s'en sortir. Et donc, on a au niveau de l'OTAN, nos partenaires, ils ne veulent pas voir ça. Et jusqu'au dernier moment, ils refuseront. Et du coup, ils vont être prêts à Chicago à toutes les compromissions pour ne pas voir la réalité en face. Là, il y a une Euro-Amérique. C'est plus une France-Amérique, c'est une Euro-Amérique.
Nous sommes effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en pleine primaire républicaine. La mandature d'Obama n'a pas vraiment été brillante. Et puis depuis 2009, on a vu l'arrivée des Tea Party et leur éclosion. Et vous expliquez, surtout selon vous, dû à l'échec de George Bush. Est-ce que cet échec a fait que les Tea Party sont un peu ce retour sur lui-même?
Oui, le nom déjà.
Oui,
donc c'est un nom. Alors il faut pas oublier. Alors je l'avais signalé une fois. Ça fait partie des choses quand je l'ai dit. On me regarde. Le Tea Party. Bon, c'est en décembre 1773 ou novembre, je sais plus. Donc c'est au début de la guerre d'indépendance, avant que les choses dégénèrent. Donc un certain nombre de colons à Boston se déguisent en Indiens, montent sur les bateaux anglais et balancent le thé d'importation puisque les Anglais imposent. Un peu ce qu'ils font avec les Chinois au 19e avec l'opium, et donc ils se débarrassent de ce... Bon. Et c'est un auteur américain fort intéressant, fait partie de cette intelligentsia justement qui est new-yorkaise, qui a quelques neurones de branchés, et qui faisait remarquer qu'en fait c'est un grand réflexe de prophylaxie. Ça, symboliquement, c'est un grand réflexe de prophylaxie. C'est-à-dire qu'on se débarrasse. Alors la phrase de Lewis Lapham, je sais plus, c'est dans le djihad américain, il dit que ça soit une cargaison de thé britannique ou que ça soit des livres de philosophes, d'intellectuels français, de toute façon le mal est toujours d'importation pour les Américains. Donc on a le Tea Party, c'est aussi véritablement on se débarrasse de tout ce qui vient de l'extérieur, une espèce de mouvement de purification, de repli sur soi, qui est assez symbolique. Alors le Tea Party, c'est un phénomène qui est très très... Vous avez vu Rand Paul dans les primaires républicaines, il est complètement largué à la masse. Bon, donc c'est On peut pas savoir exactement quelle est l'influence du Tea Party. On ne sait pas qui est représentant ou sénateur affilié ou pas. Le poids du Tea Party, il est très diffus, donc il y a un phénomène d'entrisme du Parti républicain, mais du coup ils sont un peu noyés, et puis ils peuvent pas, le bipartisme aux États-Unis est tellement verrouillé que le Tea Party ne peut pas trouver sa place, il peut même pas être l'aile droite du Parti républicain, donc il est obligé de s'intégrer dans la structure. L'échec de George Bush, pour revenir, c'est un peu l'échec de l'Amérique. On a un peu caricaturé, enfin, ce qu'on appelait les néocons. Je rappelle que l'expression n'est pas française, elle est britannique, c'est les journalistes britanniques, enfin ceux qui étaient suffisamment francophiles pour comprendre toute la saveur de leur raccourci, qui les premiers ont utilisé ce terme de néocons pour les néoconservateurs. Tout le 11 septembre a un peu tendu un rideau de fumée, surtout avec toutes les théories conspirationnistes. Enfin, c'est pas parce que la communication officielle sur cette histoire est bancale et tient pas la route qu'il faut non plus se lancer dans des théories qui sont complètement hallucinantes. Et puis surtout qui prêtent à l'Amérique une puissance qu'elle n'a pas. Je veux dire, l'Amérique, je crains malheureusement, n'est même pas capable de faire un complot, de se tirer une balle dans le pied pour ensuite faire une guerre qu'elle perd. Ici, si complot il n'y a pas eu pire complot de l'histoire vu le résultat que celui-là. Mais ce qu'avaient dit les néoconservateurs, c'est la fameuse lettre à Clinton, là, signée le Project for a New American Century de 96-95. Excusez-moi pour les dates, je flotte un peu. Signé par Christol, Kagan, Perl, Wolfowitz, enfin tous ceux qu'on va retrouver dans l'équipe après autour de Chenet, et qui dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire, nous sommes en situation de monopole, mais c'est un monopole qui est fragile depuis la chute de l'Empire soviétique. C'est un monopole qui est fragile et la puissance, finalement, elle est relative. On a surdimensionné nous-mêmes, vu de l'extérieur, la puissance et le discours américain. Il faut bien voir ce qu'il disait réellement. Alors, il y a toute la flambe des néoconservateurs avec des déclarations par moments hallucinantes. L'histoire maintenant est ce que nous allons en faire. C'est nous qui décidons de l'avenir du monde. La question des... Enfin, etc., etc. Mais en fait, quand vous les lisez bien, ils disent à Clinton, on est en situation de monopole, mais il ne faut pas laisser les Européens nous brouter de la laine sur le dos. Faut pas. Et surtout, la fenêtre d'opportunité va se refermer. Et les néoconservateurs le disent dès le milieu des années 90. Bon. Et donc, il faut... mettre, si vous voulez, l'image, c'est mettre le pied dans le coin de porte avant, parce que la porte va se refermer. Donc, faut mettre le pied dans la porte, parce que ça peut arriver, ça va arriver vite, parce que l'Amérique est en situation de surpuissance relative. L'idée de surpuissance absolue n'existe pas, n'a aucun sens. Et tous les parallèles qu'ils ont fait avec Rome, Pharaon et tout n'avaient strictement aucun sens. Même Rome était consciente de ses limites. Hein. Il y avait un limès, des frontières, et nombre d'empereurs romains ont rapatrié du côté notamment de l'Euphrate. Enfin, ils tenaient pas les frontières, et ils le savaient. Et donc, si on veut véritablement installer définitivement la puissance américaine, non pas au sens colonial ou impérialiste, mais au sens impérial, c'est-à-dire être véritablement les maîtres à penser, il faut le faire maintenant. Il faut véritablement neutraliser de tous les points de vue toutes les puissances émergentes, notamment la première, c'est l'Europe. Il faut oublier que l'objectif, enfin, ce que les Américains visent maintenant, c'est la Chine, mais ils fantasmaient énormément au début des années 90 sur l'Europe, parce que moi j'y étais au début des années 90, ils découvraient le marché unique et ils découvraient qu'on allait se doter d'une monnaie unique, et ils posaient des questions du style « Ah bon, mais vous avez supprimé alors les barrières douanières ?» Je disais « Ouais, mais ça fait 40 ans. Ah bon, et alors vous avez fait ça ?» « Oui, ben ça fait 30 ans. Ah bon, et alors vous avez un parlement, une cour de justice ? » ?»« Bah oui, ça fait depuis 40 ans. Ah bon ?» Donc ils découvraient l'Europe et ça les a mis dans une panique, parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne s'imaginaient pas que l'intégration européenne était aussi poussée. Bon. Et pour toutes ces raisons, les néoconservateurs ont dit qu'il faut absolument nous asseoir, enfin imposer l'Amérique avant que la fenêtre d'opportunité se referme. Et le 11 septembre, pour eux, c'est pas du tout le prétexte, enfin, moi, ce qu'on dit pour envers, c'est la confirmation. Moi, j'ai toujours vu comme ça. C'est les néocons, ce jour-là, ont la confirmation que ça y est, la fenêtre d'opportunité se referme. C'est-à-dire que ça y est, l'Amérique qui s'est mise en situation de vulnérabilité, etc., même si en face, c'est pas grand-chose, finalement. C'est une brigade en Afghanistan qui va être littéralement étriée en quelques semaines par les troupes de l'Alliance du Nord et les bombardements américains. Et puis après, c'est un Gugus qui fait joujou avec des cassettes jusqu'à ce qu'on vienne le prendre 10 ans après. Ils ont quand même mis 10 ans pour et pour eux, c'est le signe que cette fenêtre d'opportunité, elle est en train de se fermer. Et il faut le faire très très vite du coup. Et c'est pour ça qu'ils poussent les feux. Et c'est pour ça que je disais, Bush, c'est quand même pas une lumière, mais n'importe quel autre président, de toute façon, l'aurait fait, je pense. Même qu'on dit Al Gore, s'il ferait, finalement, on avait bien recompté les petits trous dans les bulletins de Floride.
Oui, parce qu'à l'époque de Clinton,
de toute façon,
Clinton n'est pas vraiment.
Clinton, non, mais un truc comme ça, de toute façon, il faut que l'Amérique réagisse. Et derrière, le raisonnement des néoconservateurs n'était pas si con que ça, d'un point de vue purement américain. Il fallait le faire. Alors maintenant, ils s'y sont pris comme des manches, pour parler en bon français. Hein. Mais il fallait absolument le faire. Et je pense que le 11 septembre, ils se sont dit, il faut qu'on se dépêche. Et ils ont échoué. Et l'occasion ne se représentera pas. Et c'est là, effectivement, où les Américains se replient sur eux-mêmes. Alors, il y a le Tea Party, hein, comme vous disiez. On leur présente un miroir à ce que votre cinéma était beau, ce que vous êtes intelligent. Et puis, dans The Artist, il n'y a pas seulement le cinéma. Il y a aussi toute l'idéologie de l'effort. Hein. Le film, c'est par le travail. Il y a aussi un côté One Million Baby, là, le film de Clint Eastwood et tout. C'est pas une boxeuse, mais c'est une actrice. Enfin, on leur présente quelque chose qu'ils adorent, mais ils se replient sur eux-mêmes parce que, en lisant la presse américaine depuis le mois de juillet, ils sentent que le train ne repassera pas. Enfin, l'occasion ne se représentera pas.
Puis avec cette idée, cette illusion du capitalisme sans État, si cher aux libertariens et à Hayek, c'est une sorte d'autorégulation. Vous considérez aussi comme une escroquerie l'entreprise preneur partant de rien, c'est cette légende américaine, elle est en train de revenir chez l'Américain de base, alors que le premier capitalisme, c'est quand même l'État aux États-Unis.
Oui, alors que on a vu au moment de la crise de 2008 que s'il n'y a pas l'État pour assurer, enfin comme assureur général pour éponger les dettes, le système, bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que le libéralisme tel qu'on nous le présente ou que certains encore, enfin, j'entendais encore Alain Madelin et d'autres veulent, est-ce que c'est valable? C'est un autre sujet. Vous savez, le discours, ça n'a pas marché.
Votre préfacier, qui est directeur de Harper Magazine, ouais, avait sorti il y a 2-3 ans.
Une caste américaine.
Voilà, exactement. Ouais. Et qui analysait, en fait, enfin, le débat là que nous avons, il l'avait fait dans un livre assez remarquable d'ailleurs.
Et qui est lui, mais parce qu'il y a tout un mythe. Non, mais alors, le débat plus général, c'est depuis le début du 18e, hein, depuis Mandeville et puis après Smith, c'est est-ce que les crises du capitalisme, c'est dû au capitalisme lui-même qui à un moment est mortifère, ou bien est-ce que c'est dû au fait qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut et que l'État, au moment de la crise de 2008, des subprimes, on a vu encore les mêmes débats, c'est-à-dire des gens comme Alain Madelin et quelques autres disaient que ça n'était pas les subprimes en soi qui étaient le responsable, c'est parce que l'État avait imposé par les deux organismes, Fannie Mae, là, oui, machin. Donc c'était encore un reste d'interventionnisme, etc. C'est un débat qui n'a ce qui est intéressant, mais qui est purement idéologique. Ce qui est sûr, que c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de capitalisme absolu. Il n'y a jamais eu. Enfin, c'est un des États au monde où la puissance publique intervient le plus. Et Tocqueville l'avait bien vu. Il n'y a pas les grands projets aux États-Unis publics sont tous financés, ont quasiment tous été financés par l'État, comme en Europe. Hein, il n'y a pas d'eurotunnel. D'ailleurs, les expériences d'eurotunnel, justement, on a vu ce que ça avait. Bon. Mais aux États-Unis, il n'y a pas des eurotunnels qui marchent. C'est pas vrai. L'exemple que je cite, parce que c'est le plus connu, c'est la fameuse ligne de chemin de fer, enfin, on voit dans les westerns, les BD et tout, qui était financée dans des conditions mais hallucinantes. Hallucinantes. C'est entièrement les fonds publics. Enfin, ça se faisait pas en mettant des dollars. Il y avait des lignes de crédit, des trucs, des machins. C'était par un phénomène d'escompte après. Mais c'est entièrement la puissance publique qui finance ça. Les États-Unis ne font pas exception à la règle. Mais le Tea Party, justement, alors avec cet auteur très connu aux États-Unis, un peu moins en France, qui est Ayn Rand, avec ses deux livres, The Fountainhead et puis Atlas Shrugged, les libertariens qui restent dans une idéologie de libéralisme où l'État n'intervient pas
Surtout avec une méfiance de l'État. C'est moins l'État.
Oui, c'est-à-dire à la fois il y a une idéologie, puis il y a toute cette espèce de refus de cette alliance de ce qu'ils appellent le big business et le big government, c'est-à-dire c'est un peu lié chez dans la droite américaine, et à la fois on traite Obama de socialiste, à la fois parce que il y a un interventionnisme ou Roosevelt, hein, un interventionnisme étatique, et puis et cet interventionnisme se fonde et est aidé par les grands monopoles. Obama, il a et on le voit bien dans ses financements, il a quasi-totalité du capitalisme américain derrière lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de toute manière. Il a tout fait pour l'avoir derrière lui. Et le Tea Party revient. Alors, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'à force de réécrire leur propre histoire, les Américains, ils finissent par y croire. Et le Tea Party, ils croient vraiment justement ce que dénonçait MacArthur. Mais les historiens américains n'y croient pas, hein. C'est pas longtemps qu'ils n'ont, c'est-à-dire le mythe de l'immigrant, j'arrive, je pose mon baluchon, je viens d'Irlande. D'abord, j'ai été chassé par les persécutions, les trucs, les machins.
Le livre était absolument passionnant, parce que il reprenait des chiffres, notamment sur la politique, le fameux mythe de l'homme nouveau à chaque fois des élections américaines, qui montre que les sénateurs sont issus de lignées.
Il y a tout l'héritage, enfin, il y a toute la révolution, enfin, il y a l'élite, entre guillemets, qui a fait la guerre d'indépendance, qui s'est installée, et qui tout de suite a capté les institutions, le pouvoir, etc. Et un épisode qu'on ne connaît pas en France, qui est l'intervention sous la Révolution d'un de nos ambassadeurs très rapidement, la Convention envoie quelqu'un qui s'appelait Genet pour réactiver le traité d'alliance de 1778 en disant, après tout, vous êtes une république, on est une république, on est en guerre contre l'Europe entière, on est venu vous aider, on a envoyé la plus belle flotte qu'on ait jamais eue, enfin, c'est à vous de nous donner un coup de main, ne serait-ce qu'en attaquant les navires anglais, quoi. Et donc on envoie un ambassadeur qui s'appelait Edmond, ça dépend des Genet, qui a plein pouvoir, qui a des crédits illimités, et qui va se heurter à un refus du pouvoir en place à l'époque, Washington, Hamilton, ceux qu'on appelle les fédéralistes, qui disent que non, il n'y a pas de raison, ils ne veulent pas aider la France. Et Washington et Hamilton ont une excuse qui ne vaut rien en droit international. C'est comme ça, bout de décoffrage, on a signé avec un roi, on n'a pas signé avec un État. En droit international, ça ne vaut rien. Ils avaient signé avec la France, mais on a signé avec un roi, vous lui avez coupé la tête, le traité d'alliance ne vaut plus. C'est une excuse un peu plus tartuffe. Mais Genet va s'apercevoir très rapidement, qui n'est pas un type très intéressant, que à côté de cette élite avec qui il est obligé de négocier, il y a encore une masse d'immigrants complètement dans un état. Il y a même des serfs libres. Enfin, il y a tout véritablement, on pourrait dire, un peuple américain qui est déjà complètement mis de côté et va avoir l'idée finalement de créer une pression, enfin de faire monter la pression d'en bas et d'essayer de créer des clubs jacobins, enfin de transposer finalement la Révolution française aux États-Unis. Et c'est ça qui va déclencher une panique énorme et qui va provoquer notamment les deux premières lois d'exception. 5 ans après, le Sedition et le Alien Act. Et là, il y a l'élite qui va justement aux États-Unis véritablement capter et se faire. Déjà, ils se sont fait des institutions à eux, mais ils vont véritablement, c'est ce que pique MacArthur, les phagocyter, se les garder pour eux. Et puis, la deuxième vague, c'est le lendemain de la guerre de sécession, c'est quand l'expansion peut reprendre et puis qu'il faut tout. Et là, ce qu'ils appellent le Gilded Age, enfin, Gilded, c'est l'âge d'or, et là, va se fixer définitivement, comme montre bien MacArthur, mais qui reprend des travaux d'historiens américains, toute l'élite capitaliste financière et politique, c'est-à-dire toute cette élite qui est totalement incestueuse, enfin, je veux dire, c'est la même chose, hein, c'est le big government et le big business contre lequel elle était partie, et qui effectivement fige les structures sociales aux États-Unis beaucoup plus qu'on ne croit. Et MacArthur, effectivement, montre que les grandes fortunes américaines, à la fin du 19e siècle, elles sont formées. Que le milliardaire, bon, on peut toujours citer un Trump, des exceptions, parce que ça fait bien une main en avant, mais que les grandes dynasties financières qui possèdent les entreprises et tout aux États-Unis, la structure financière américaine, elle est figée, elle est fixée à la fin du 19e, mais elle n'a pas bougé, malgré les vagues d'immigration.
On va terminer peut-être avec quelques questions des auditeurs. Ah oui, l'heure passe assez vite. Lucien Valdès.
Oui, une précision d'un auditeur qui indique que la suspensive clause a son équivalent en France avec la psychiatrie. Il y a en France 70 000 internements préfectoraux.
Non, mais c'est pas dans la Constitution. Oui, non, mais bien sûr, il y a des et on a introduit aussi récemment les notions de sécurité nationale et tout. Non, mais là, c'est la suspension de cause, c'est dans la Constitution. C'est-à-dire que vous avez une Constitution et au milieu de la Constitution, vous avez un article qui bousille toute la Constitution. Ça, il y a pas. Même l'article 16 en France, il est pas, il suspend pas les libertés publiques. De toute façon, il y a pas de. Puis il est temporaire et puis c'est. C'est une décision régalienne, et puis il faut s'appeler Charles de Gaulle, et puis avoir quatre généraux à Alger qui jouent aux billes pour avoir le courage de dire je mets l'article 16, mais il ne suspend pas les libertés publiques, de toute façon. Ça, alors que le suspension clause est un article qui peut être mis en œuvre n'importe quand, n'importe où, par n'importe quelle administration, du président à un juge, et qui, de manière collective ou individuelle. Et c'est dans la Constitution. C'est-à-dire que c'est vraiment l'espèce de mine qui peut démolir, qui contredit tout le reste. Si vous voulez. Ça, il n'y a pas d'équivalent.
Alors, on a trouvé, Patrick, on a trouvé notre auditeur de la France-Amérique. Je vous le lis. Ce monsieur est un homme du ressentiment. Les Américains ont un retour sur leur histoire passée. Ils ont publié des dizaines de livres sur le sujet.
Ouais. Non, mais moi, je m'étais déjà sur à propos d'American Parano, je suis un frustré qui n'a pas réussi à coucher. En gros, je vous l'ai fait, mais c'était rédigé comme ça. En fait, c'est de la frustration parce que j'ai pas réussi à coucher avec l'Amérique. C'était ça.
Bah écoutez, ça va être. On va terminer sur cette conclusion. Merci à vous, Jean-Philippe Imarijon. Je rappelle le titre de votre livre, Pour en finir avec la France-Amérique, aux éditions Ellipse. Pour préparer cette émission, je me suis servi de certains livres et je conseille, qui est encore d'actualité, La Nouvelle Puissance Américaine.
La nouvelle impuissance
américaine, essai sur 10 années d'autodissolution stratégique d'Olivier Zajec aux éditions de l'œuvre. Mais on peut aussi rappeler vos livres qui sont Pourquoi la vieille Amérique va perdre sa guerre contre le reste du monde.
American Parano, Pourquoi la vieille Amérique.
Voilà. Sarko l'Américain, l'imposture américaine, splendeur et misère de l'oncle Sam, et tout ça est aux éditions Bourrin.
Oui, alors j'ai publié, je le conseille parce que j'y tiens beaucoup, un article, La diagonale de la défaite, sur la défaite de 40, et j'y tiens parce que la défaite de 40 nous dit des choses sur notre propre défaite aujourd'hui, et pas du tout dans le sens que l'on pense. Enfin, bon, ça dit des choses sur l'Amérique, je veux dire, contrairement à ce qu'on croit très rapidement.
On va le lire et
c'est publié.
Chez François Bourrin aussi. Contrairement à ce qu'on ne veut pas le voir, mais on parle beaucoup de nos généraux, Pétain, Gamelin, enfin de la manière dont on avait compris, disait Maïkin, la guerre moderne et industrielle dès 1916, et qu'on a essayé de refaire en 40. Le problème, c'est qu'en face, on a été pris dans une guerre asymétrique. Mais, disent l'histoire américaine, il l'enseigne à West Point, la guerre des Français, inventé par Albert Thomas et Philippe Pétain, puis repris par Gamelin et Daladier. C'est comme ça qu'on l'a fait. D'ailleurs, nous, Américains, c'est comme ça qu'on a fait en 42. Finalement, on a gagné. Donc, pour eux, c'est très intéressant. La Blitzkrieg est un accident. C'est très intéressant de dire ça en tant que Français.
Bah écoutez, on va le lire et puis on vous réinvitera.
Et je précise que sur le site de la revue Défense Nationale, ils m'ont offert un cahier électronique qui coûte 8 euros, qui peut être téléchargé. Il y a les 200 pages de l'intégralité de toute ma production la revue depuis 2001 et de ce que les autres auteurs et autres généraux ont écrit sur mes livres. Dans cette revue, ça s'appelle Souvenir d'un monde qui chavirait.
On mettra les liens sur le site internet pour nos éditeurs. Merci à vous. Donc, on va faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons pour l'actualité européenne avec Grégoire Gambier, Lucien Valdès et quelques autres livres à vous proposer, toujours sur Radio Courtoisie. De retour dans les chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie, notre deuxième partie avec Grégoire Gambier. On va commencer avec vous. Je crois que vous avez un peu d'actualité européenne. Qu'avez-vous à nous proposer que Philippe Christel, ne pouvant pas dignement nous parler de cette grande victoire du président Poutine, je pense qu'on lui laissera la possibilité d'analyser tout ça d'ici un mois.
Oui, on ne voudrait pas déniaiser le sujet. Bah,
non, quand même.
On ne pourrait pas, on peut tous se féliciter évidemment des résultats. Et souligner que 2/3 de voix au premier tour, c'est toujours mieux que 52%, et que symboliquement, oui. Ça permet au duo Poutine-Medvedev, et le plus dur n'est pas toujours celui que l'on croit, enfin en tout cas le plus acharné à défendre les intérêts russes, est légitimé, bien évidemment, par le résultat de cette élection, quelles que soient les contestations, puisque vous avez vu que même les contestations les plus brutales, et où on retrouve évidemment les amis américains de notre invité précédent, estiment que si, en comptabilisant l'ensemble des fraudes qu'ils sont censés avoir observées, ou en tout cas qu'ils auraient enregistrées de la part des éternelles ONG, Poutine n'aurait été élu qu'avec 51 ou 52% des voix terrible. Au premier tour, hein,
premier tour.
Plutôt que 63. Bon, ceci reste somme toute tout à fait satisfaisant. Voilà, mais donc c'est toujours mieux d'être élu avec 2/3 des voix.
Oui, c'est très bien.
Donc moi j'ai pas l'actualité, c'est plutôt une actualité éditoriale si vous me permettez, Patrick Théel, avec deux ouvrages. Le premier est évidemment un sujet qui nous tient à cœur puisque c'est Géopolitique de la France. De Pascal Gauchon, que nous connaissons bien, évidemment,
reçu pour son dictionnaire.
Tout à fait, dans cette émission. Donc Géopolitique de la France, c'est un ouvrage passionnant qui sort, je me demande s'il est sorti d'ailleurs ou il sort demain, mais en tout cas c'est un ouvrage passionnant et didactique, hein, de la collection Major. Donc c'est un manuel, ça se présente sous forme de manuel donc aux presses universitaires de France, qui pose la seule vraie question que peut être la géopolitique d'une grande puissance moyenne comme la France. Comment retrouver les voies de la puissance entre, je cite, grandeur passée et peur du déclassement. Alors c'est une question qui devrait être au cœur de l'actuelle campagne présidentielle.
Ah oui, mais là,
vous en conviendrez.
Non.
On en est loin.
Ouais.
Bon, mais c'est pas une raison pour ne pas se la poser. Ouais, en tout cas, les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent se la poser.
Je sais pas, parce qu'on ne parlera pas d'ici un mois ou deux, ou même dans un an, de cette élection présidentielle qui est quand même d'une médiocrité totale. Enfin bon.
À force de le dire, enfin je ne sais pas si elle est médiocre. En tout cas, ce sujet-là, le sujet de la souveraineté, de la puissance, la puissance y compris, enfin vous avez vu sur les politiques de défense, les politiques diplomatiques, personne n'en parle. Alors la campagne n'est pas finie, hein. On peut
en
parler.
Peut-être que le dernier jour. C'est jamais.
Oui, sûrement. Mais à la limite, pourquoi pas ? L'essentiel, c'est que cette question, pourquoi la France et que devient la France, pour paraphraser Ernst von Salomon, et vous voyez que j'anticipe sur mon deuxième ouvrage que je vais signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc pour paraphraser von Salomon, la France ne semble plus brûler que dans quelques cerveaux hardis, mais c'est peut-être ce qui lui permettra de renaître. Bref, si vous permettez, il y a trois bonnes raisons pour que les auditeurs de Radio Courtoisie et de cette excellente émission se jettent sur cet ouvrage et le dévorent. La première, c'est qu'il pose donc les vrais enjeux, et d'ailleurs sous-titré « Plaidoyer pour la puissance ». Géopolitique de la France, plaidoyer pour la puissance. La deuxième raison, c'est que c'est une étude fouillée, à la fois fouillée et synthétique, comme Pascal Gauchon sait les faire. Et Pascal Gauchon est un vrai spécialiste de la politique française et de la géopolitique de la France. Et vous savez qu'on lui doit notamment le que sais-je sur la France, en tout cas sur le modèle français, pardon. Et je voudrais juste citer le dernier paragraphe de cet ouvrage qui, j'espère, donnera l'envie à tous de le lire. Donc cet ouvrage, je cite, hein, n'aura pas été inutile s'il a contribué à battre en brèche quelques idées reçues et à rappeler certaines évidences. Que la France possède des atouts exceptionnels, qu'elle ne doit pas avoir honte de la personnalité qu'elle s'est forgée dans le temps long et qui constitue sa force. Qu'elle a le droit de défendre ses intérêts avec réalisme, que pour ce faire, elle doit lever les contraintes qui l'entravent, que nous ne vivons pas au paradis, mais dans un monde marqué par le rapport de force. Enfin, tout simplement, qu'il est légitime qu'une puissance aspire à la puissance. C'est le dernier paragraphe donc de cet ouvrage de Pascal Gauchon, Géopolitique de la France, plaidoyer pour la puissance au PUF.
Presque faire des discours pour les candidats.
Tout à fait, ou en tout cas
la présidentielle. Hein, tout
voilà.
Peut-être de meilleure qualité que ce qu'on entend.
Ou en tout cas, si les candidats à la présidentielle, quels qu'ils soient, pouvaient lire cet ouvrage avant la fin de la campagne, j'espère qu'ils en seraient inspirés. La troisième raison, si vous permettez de lire cet ouvrage surtout, c'est qu'il ouvre une nouvelle collection aux presses universitaires de France, donc sous la direction de Pascal Gauchon d'ailleurs, donc consacrée à la géopolitique, avec comme titre déjà annoncé le Brésil, qui sort également là cette semaine en même temps, l'Inde en avril, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Vous comprendrez que c'est un décryptage du printemps arabe, donc fin avril, avec notamment Tancrède Josserand, qui je crois est déjà venu
reçu
aussi,
pour son livre sur la Turquie.
Donc la mer et les océans, autre vrai sujet pour une puissance comme la France, en juillet. Donc c'est toujours sympathique de pouvoir saluer la création, enfin l'ouverture d'une nouvelle collection. Je terminerai, si vous le permettez, cette information par l'annonce du Festival de géopolitique et de géoéconomie 2012 qui se tient le week-end prochain justement à Grenoble, consacré à la géopolitique des pays émergents, thème de l'ouvrage donc de la collection qui sort en même temps que cette géopolitique de la France. Donc c'est la géopolitique des pays émergents. La corrélation n'est pas anodine, puisque la France semble s'interroger sur son avenir. Elle développe, sous le triumvirat Sarkozy-Juppé-BHL, une géopolitique de la morale et de l'autre, qui, et je cite Pascal Gauchon, à force de rejet de la réalpolitique, finit par servir la géopolitique des autres. Ce qui est quand même très juste. Tandis que les pays émergents, et c'est pour ça que c'est amusant de voir les deux ouvrages sortir en même temps, que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil en particulier, réarment, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas griser par leur succès économique et encore moins par les discours plus ou moins droits de l'hommiste, mais ils ont une claire vision de leur géopolitique et donc de leur devenir. Donc, encore une fois, un très bon ouvrage signalé aux auditeurs de Radio Courtoisie, Géopolitique de la France, plaidoyer pour la puissance de Pascal Gauchon au PUF.
Au PUF, bah très bien. Je crois que vous avez un deuxième livre.
Oui, bah je...
Comme ou alors, comme on va avoir exactement, on va vous reprendre tout à l'heure, je vais vous laisser reprendre un peu votre souffle.
Vous voulez me refaire reboucler sur Hans von Salomon.
Vous y arriverez. On va simplement parler, je voudrais parler juste de deux événements importants et dont Radio Courtoisie participe ardemment. C'est on va le citer, mais on en reparlera, je suppose, sur cette antenne. Ça va être les Bobardeurs qui vont, c'est troisième édition des Bobardeurs qui vont se passer le mardi 20 mars 2012 à 20h, salle d'Athènes, 8 rue d'Athènes, dans le 9e arrondissement. Donc c'est la remise aux journalistes qui montent au nom du politiquement correct. Je pense que cette cérémonie maintenant est connu par tous nos auditeurs, mais on va avoir en ligne un de nos amis que nous avions déjà reçu, c'est Javier Ravier, excusez-moi de mon de, et pourtant j'avais fait espagnol en deuxième langue, Javier Portela qui va venir en France pour la France en danger, cette manifestation qui va être organisée, la nationalité citoyenne identité en débat. C'est les Assises nationales à Paris qui vont avoir lieu samedi 10 mars 2012 à l'espace Charenton et qui est un événement important. Alors je vous cite très rapidement les gens qui vont parler, c'est assez incroyable. Il va avoir Yvan Blot, Omar Bas, Jean-Paul Gourevitch, Fabrice Robert, Javier Portela, Philippe de Winter du Vans Belang, Pierre Cassin, Yves Leland, Éric Molin, Philippe Conrad, Henri Lesquin, Jean-Yves Le Gallou et j'en passe, Jean-Paul Bourg, Jean Raspail, Jean-Claude Lempereur, Guy Rachet, il y a beaucoup de gens.
Vous l'avez passé
pour cette journée. Je crois que je les ai tous nommés. Javier Portela, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Bah écoutez, merci d'intervenir en direct sur Radio Courtoisie. Pourquoi vous serez présent aux Assises et quel va être le thème de votre intervention ce samedi 10 mars ?
Voilà, bonsoir. Par ailleurs, et entre parenthèses, je vous précise que vous pouvez franciser tranquillement mon prénom.
Merci. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi. Bon, alors, écoutez, je vais être là, tout à fait heureux. J'y vais parce que je considère que l'enjeu, le jeu vaut la chandelle et que l'enjeu est extrêmement important. Alors, quelle est la question du colloque et quelle est la façon par laquelle je vais envisager cette question-là? La question du colloque, c'est la question de notre identité collective, finalement. Et cette question-là, qui me paraît absolument cruciale, je l'envisage en faisant la comparaison entre ce qu'est une société et ce qu'est une communauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés, dans des tout collectifs qui ne sont rien d'autre qu'une amalgame, une addition d'individualités, d'atomes éparpillés. Tandis qu'une communauté, c'est quelque chose d'organique qui se tient d'ailleurs dans le temps avec une continuité historique que nous n'avons pas. C'est dont découlent plusieurs conséquences, toutes négatives, mais sauf une positive qui est précisément la disparition du nationalisme chauvin, mais une disparition qui entraîne. Et c'est là qu'il faut essayer d'éviter qu'elle entraîne une telle conséquence. Ce n'est pas le nationalisme bornais qu'il faut revendiquer, loin de là. Mais ce qu'il faut éviter, par contre, c'est la conséquence négative à laquelle cette disparition nous a amené, qui est l'effritement de tout sentiment vraiment identitaire. Et c'est ça, ce sont là les questions qu'il faut poser, me semble-t-il, en nous rendant compte que ce qui est en jeu par là même, ce n'est pas la seule question de l'identité, mais tout ce qui la sous-tend, c'est-à-dire notre mouvement, le mouvement identitaire, sera voué à l'échec tant que sa lutte se bornera à être une lutte négative, un combat contre, une opposition essentiellement à l'immigration de peuplement, et tant que on n'aura pas compris qu'il faut envisager les choses d'une façon positive, en tant qu'une affirmation de, un projet pour, une aspiration à. C'est-à-dire à construire une communauté autre, à donner un sens différent, plein, authentique à notre existence. Voilà.
Alors, une question de Lucien Valdès.
Alors, oui, Javier Ruiz Portela, je rappelle que vous avez aussi un beau brin de plume, puisque vous êtes l'auteur donc dans la dernière livraison d'éléments d'un article sur le dernier livre de Dominique Vénère. Exactement. Et puis, je voudrais donc rappeler aussi aux éditeurs que vous publiez ces temps-ci Les Esclaves Heureux de la Liberté aux éditions David Reinhardt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, en effet, le livre vient de sortir il y a deux, trois jours, justement. C'est la traduction en français du livre du même titre en espagnol qui est sorti il y a quelques mois en Espagne. Et c'est un essai philosophique, disons, mais écrit de la façon dont je considère qu'il faut écrire la philosophie, à savoir d'une façon extrêmement littéraire, vivante et compréhensible. En gros, disons, quels sont ces bizarres esclaves qui sont en même temps heureux et heureux et esclaves plutôt du fait d'être libres. Ce sont nos contemporaines, évidemment. C'est-à-dire, c'est justement ce dont j'ai parlé à l'instant. Ce sont ces communautés déboussolées, dépourvues de sens, plongées dans un matérialisme qui ne nous donne aucun élan permettant d'aller au-delà de la survie matérielle et des loisirs.
Merci beaucoup, Javier Portela. On va vous laisser. On va se retrouver samedi 10 mars 2012 et on vous écoutera attentivement. Et en tout cas, merci d'être venu en France pour cette grande assise nationale à Paris.
C'est moi qui vous remercie.
Merci bien. Au revoir.
Voilà, Grégoire Gambier, nous avons quelques minutes pour que vous parliez de votre livre.
Oui, je vais le faire très rapidement. Alors cette fois, c'est vraiment le dernier livre de Dominique Vénère, puisque je crois que dans Éléments, on parlait de l'avant-dernier livre. Alors pour être très très sincère, c'est plutôt une réédition. C'est L'imprévu dans l'histoire, 13 meurtres exemplaires de Dominique Vénère. Une réédition dans la mesure où la première édition date de 1988. Il y a quelques changements sur les les 13 meurtres qui ont été sélectionnés par Dominique Venner, des meurtres politiques, s'entend, bien sûr. Mais surtout, il y a une mise en perspective sur le thème de l'imprévu dans l'histoire, qui est un thème, bien évidemment, de prédilection de Dominique Venner. On n'a pas le temps de beaucoup développer, peut-être nous en reparlerons dans les chroniques de la vieille Europe. En tout cas, c'est un ouvrage très intéressant. Et on ne peut plus d'actualité. Je voudrais juste signaler sur les 13 récits, les 13 récits qui sont faits par Dominique Venner, donc de ces attentats ou de ces assassinats ou ces disparitions tragiques, l'assassinat du premier ministre Pierre Stolypine, le premier ministre du Tsar, bien évidemment, le 14 septembre 1911 à Kiev. Parce que le tableau que Dominique Venner fait de la Russie d'avant la révolution bolchevique est très poignant, très juste, tragique au sens réel du terme. Et on renvoie bien à l'actualité du moment. C'est, la Russie est vraiment un pays qui mérite les gouvernants qu'elle se donne en ce moment, compte tenu des événements qu'elle a traversés et de ce qui lui reste à accomplir dans l'histoire. Donc vraiment, c'est un récit très émouvant que l'assassinat de Pierre Stolypine, donc dans le dernier livre de Dominique Venner, L'imprévu dans l'histoire, 13 meurtres exemplaires aux éditions Pierre-Guillaume Deroux.
Merci à vous Grégoire Gambier, je remercie aussi Lucien Valdez. Je rappelle simplement le titre du livre de notre invité pour en finir avec La France-Amérique de Jean-Philippe Imarijon aux éditions Ellipse. Et venez nombreux aussi contre le droit de vote des étrangers et la défense de l'identité qui aura lieu le samedi 10 mars 2012 à l'espace Charenton avec un nombre d'invités. On va pas les reprendre parce que j'en aurai pour 2 ou 3 minutes, mais je pense que tout le monde sera là pour cette journée qui sera de 9h à 19h. Voilà, notre émission est terminée. Si vous avez envie de nous réécouter, nous avons le blog vieilleeurope.fr où vous pouvez commenter, critiquer, dire ce que vous voulez sur cette émission. Merci à vous et passez une bonne soirée sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something new.